envers la personne à qui j'ai mal agi. Oui. J'ai mal agi. Mais celui qui résonne en tant que croyant, il sait que c'est envers l'homme, mais ça touche encore une dimension supérieure qui est celle de Dieu.
Ça vaut la peine, c'est la raison de logique, ça vaut la peine. La question de logique du raisonnement, c'est la question de
travail. Dans le cas.
Mais je vais expliquer. Rabbi Akiva n'est pas d'accord avec toi. Qu'est-ce qu'a dit Rabbi Akiva? C'est toi la raison de la chose. Toute la Torah, c'est qu'il y aura ton prochain problème. La Torah n'est pas d'accord avec toi, selon Rabbi Akiva. C'est-à-dire, d'accord, un homme de croyance, de conscience religieuse va avoir la gravité dans les relations à l'homme, à l'autre homme. Et donc, beaucoup de moines arrivent dans la Gemara, mais Dieu dit ça. Tu vois ça. Et c'est pas fini.
Bon, dans le cadre de votre exposé, la différence entre une conscience religieuse et une conscience chélonite, ce serait que la conscience religieuse a en plus le fait, avec la conscience d'avoir fait une faute, elle a aussi la conscience de ne pas d'avoir perdu une occasion d'acquérir le mérite.
Bien fait. Très bien. C'est la réponse. Mais dis-le de toute façon. Explique plus. Je vais essayer. C'est ça la réponse. La conscience morale d'un athée, et je ne nie pas du tout qu'ils aient une expérience morale. C'est une expérience morale d'origine religieuse, mais sans les bases religieuses. Ça, c'est l'histoire. Eh bien, c'est la conscience d'avoir porté atteinte à un certain ordre. Un certain ordre. Et c'est grave. Le désordre, c'est grave. Mais pas plus. Et chacun avec son niveau, il s'en sont graves. Et les grands philosophes, d'ailleurs, athées, qui ont parlé de leur conception de la moralité, n'arrivent jamais à nous expliquer ce désordre, cet ordre, de quel ordre il est. Vous comprenez? Mais ils en prennent un. Tandis qu'un ordre de conscience religieuse, c'est que dans ce geste de désordre, c'est sa destinée qui est en jeu. Donc c'est beaucoup plus grave. Est-ce que c'est clair? Ce que donc a rappelé le projet de l'acquisition du mérite. Donc c'est très très grave. Alors faites attention, il ne faut pas, on étudie, hein, il ne faut pas à chaque moment de la vie avoir ça en tête. Parce que vous savez, vous ne pouvez plus agir. Peut-être je vais déranger mon projet d'acquisition du mérite. N'ayez pas peur.
Vous êtes aussi dérangé quand on n'agit pas.
C'est une des catégories d'art. Je rappelle un enseignement de la Gemara, que le Rias vient dire. Et si le Rias, qui était le Rias, le Rias, il dit malheur à moi si je pars, malheur à moi si je fais. Il est ici. Bon, on peut le dire aussi, malheur à moi si j'agis, je ne sais pas, mais malheur à moi si je ne fais pas.
C'est Rabbi Shimon.
Bon, Rabbi Shimon. Et ça veut dire que. Surtout à votre âge, faites attention, vous n'allez pas automatiquement être paralysé par les choses que vous avez connues. C'est clair, mais il faut les apprendre, les comprendre, les intégrer, et puis savoir comment les diriger. Est-ce que c'est clair ce que je sais par expérience, par exemple, pédagogique, il y a des connaissances qu'on acquiert qui apportent, qui paralysent. Alors, n'ayez pas le vertige. Et quand j'ai appris ça, et bien, même après, j'ai eu des enfants déguisants. Alors, je vais rien dire. C'est que nous avons donc une préface, donc un des premiers enseignements, ça en mantel, un des premiers enseignements, c'est cela, il y a un projet, il y a un commencement. Je vous le dis en hébreu, c'est une des méthodes d'Erchamim, qui nous montre que le mot de Réchim, qui signifie le commencement, a le même être que le mot de Shéhéri, ce qui reste à la fin. C'est-à-dire un Réchim mène à un Shéhéri. C'est clair, c'est ce que je dis là. Il y a ici une conception du temps, que le temps a une finalité, que cela mène quelque part. Parce qu'au commencement, il y avait un projet. Vous avez bien compris cela? Bon. Alors, nous allons vous poser la question suivante, dans la deuxième partie du cours. Quelle est la structure du plan de ce récit? Des six jours qui mènent à un septième. Pourquoi je vous tente de le tenir complètement, ne serait-ce que cette première idée, mais au moins l'essentiel, qui nous donnera une sorte de principe de. L'organisation des récits, nous allons atteindre là, mettre en évidence un plan de structure qui est le plan de structure de tout le récit biblique. Et vous allez être frappé par cela. Il y a une sorte de rythme dans ces récits. J'espère que vous avez lu ce premier chapitre déjà. Une sorte de rythme. Nous allons étudier qui se reproduit bon, dans les récits de chacun des six jours. Et nous allons étudier à propos du premier jour, c'est le plus simple pour notre sujet. Alors prenez à partir du verset 3, il me semble. À partir du verset 3. Alors, les deux premiers versets, je mets la profondeur de l'étude, simplement je les rappelle. Au commencement, Dieu fait la terre et la terre. Deuxième verset, qui se dévisait, et la terre était chaos, obscurité, vide, et le roi Elohim et la sainte est appelée à Marie, et le souffle de Dieu, l'esprit de Dieu planait, voltait littéralement sur la surface des eaux. On sait qu'il y a un chaos qui va être organisé. Alors, récit du premier jour. Voyons le récit. Et Dieu dit, « Yé, oh, il y est, il y est. Yé, oh, il y est. » Je vais m'occuper de ce premier verset. Il y a là deux niveaux qui vont être les deux premiers moments du plan que nous cherchons. Et d'abord, la formulation du projet lui-même. Qu'il y ait ceci, un projet. Et ensuite, le récit de ce qu'il y a eu dans la réalité. Et il y a eu ceci. C'est-à-dire, vous comprenez la forme de l'expression même qu'on peut avoir. Premier point, projet. Deuxième point, réalisation du projet. Dans ce cas, la quatrième légère, c'est ce qui a été dans le projet qu'on retrouve dans la réalité. C'est bien de la lumière qu'il y a eu, d'après le fait. Qui est lumière, c'est lumière qu'il y a eu. Ça va ? Nous verrons dans les autres jours, c'est un peu différent. On verra cette fois. Ensuite, verset 4. Vayar Elohim est à Orkiko. Il y a un jugement porté sur ce qui s'est fait. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Un jugement. Ce jugement n'est pas simple pour l'étudier. Qu'est-ce que la Torah nous enseigne ici ? Il y a aussi un message supplémentaire. Est-ce que Dieu ne sait pas a priori que la lumière c'est meilleur que l'obscurité ? Il faut l'apprendre. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Il y a une question là. On ne va pas l'étudier, je vais la signer en passant pour que ce soit bien clair. D'ailleurs, en hébreu, ce mot de vie a un sens un peu différent. C'est-à-dire approuver. Mais c'est une question d'étude. Et donc, là, il y a un troisième moment. Après le projet, le récit de l'effort de réalisation du projet, et finalement, il y a un jugement porté sur ce qu'il y a eu. Et lorsque le jugement est positif, le jugement ne se porte pas être positif. Il a des conséquences. Il y a une séparation entre ce qui, dans la réalité, correspond au projet et ce qui ne correspond pas encore. C'est la fin du verset. Et Dieu sépara entre la lumière et l'obscurité. C'est suffisamment clair ? Je vois. Nous avons déjà trois moments dans le verset précédent. Un premier moment, un projet. Un deuxième moment, un projet de vérité. Deuxième moment, le récit dans la réalité. Troisième moment, un jugement. Et séparation, encore une fois, entre ce qui dans la réalité a correspondu au projet et ce qui n'a pas encore correspondu. C'est le troisième moment, le jugement et ses conséquences. C'est très important. Nous allons retrouver cette ligne de lecture dans tous les récits de la Bible. À chaque étape du temps, il y a un projet. Et on nous raconte comment ça s'est passé. Le résultat, c'est qu'une partie a réussi et l'autre pas encore. Alors il y a séparation. Et vous trouverez dans les études l'importance de cette catégorie de séparation pour comprendre le Genèse. Qui est séparé de tout. Vous comprenez ce que je dis. Alors, dit le code de la chose, le nord de la rochère, le ministère de la vie, le réparation, le même. Quatrième point, c'est le verset 5. Va Israël au Kina Orio, de la rochère fera laïla. Il y a une destination donnée à chacune de ces parties. Celle qui a réussi a une destination positive. Celle qui n'a pas encore réussi a aussi une destination positive à notre niveau, mais par rapport à la première négative. Et Dieu nomma la lumière jour, et il nomma la lumière l'obscurité nuit. Ou bien c'est une tautologie, pléonasme, ou bien c'est de l'ordre de ce que j'essaie de vous expliquer, parce qu'en hébreu, nommer quelqu'un ou quelque chose, c'est lui donner une destination. Ça, vous dites que je ne peux pas. Par exemple, quand un enfant naît, alors on l'appelle, disons, Abraham. Qu'est-ce que ça veut dire, Abraham? Ça veut dire, tu seras Abraham. C'est dangereux, hein, de lui donner. Vous savez qu'il y a des gens qui sont durs à porter. Vous savez ? Et alors, primitivement, dans les temps anciens, et c'est ce que la tradition enseigne, il y avait une capacité prophétique des parents qui, lorsque l'enfant naissait, il savait quel monde il allait prendre. Aujourd'hui, on a perdu cette capacité prophétique. Alors, vous entendez expliquer comme ça, sans le savoir, on est inspiré au moment où on donne le nom que l'on donne. Est-ce que tu veux ? Je dis ça surtout pour ceux qui auront à choisir un nom, on ne joue pas avec ça. Mais tout le monde est un spécialiste. Et s'il n'y a pas un spécialiste, alors faites confiance que Dieu va vous inspirer. qui ont mis de l'être. Comme il a. Par exemple, ce problème de la nomination des choses et des êtres, c'est le projet de la science. Qu'est-ce que la science soit ? Le vrai nom des choses. Alors, il est arrivé finalement à des résultats importants au niveau de la matière. Il n'y a encore aucune science humaine qui sache nommer les êtres, les hommes, disons, les quelqu'un. On sait nommer les choses. Si vous avez un peu de chimie, par exemple, un nom tel, vous êtes un objet. La science qui s'appelle la chimie, c'est de trouver le vrai nom d'un corps pour en connaître le contenu. C'est clair. Alors, en tout cas, au niveau des hommes, on a perdu cette capacité. Et rien que la psychologie, qu'on pourrait définir dans ce projet-là, est encore dans les balbutiements de l'enfance. Si vous avez apprenti psychologue parmi vous, vous savez que elle ne sait encore même pas définir son objet, la psychologie de l'enfance. Il y a des rivalités entre les centaines d'écoles déjà. Donc, psychique, c'est ça, ou c'est ça, ou c'est ça, ou c'est ça. Entre-temps, les malades sont. Je répète bien. Voilà donc quel est notre plan. Non, je vais vous caractériser ce que je viens de dire. On le revoit dans l'étude que nommer, c'est donner une destination. Micro-péché. Et j'étais frappé par cela. Il y a beaucoup de gens qui, de bonne foi, croient qu'en donnant le nom d'un grand homme à une école, ils lui rendent hommage. Je vais vous dire, là, c'est un exemple, c'est pas du tout méchant. Il y a à Paris une école Maïmonide. Qu'est-ce que Maïmonide a raté? En principe, c'est pour lui rendre hommage. Mais qu'est-ce que l'école Maïmonide? C'est l'école où Maïmonide enseigne. Vous voyez pas? Par exemple, c'est une école juive, vous savez. Par exemple, il y a un centre Rachid. Je connais. Qu'est-ce que Rachid a raté? Alors, ils ont mis ça dans une rue qui s'appelle la rue Broca. C'est la Broca d'avant. Et voilà. Mais par exemple, vous avez le café de la paix. Quel rapport entre le café et la paix? Il y a l'hôtel d'Angleterre. Vous voyez, c'est la convention de ça. C'est contingent, absolument. C'est conventionnel. Alors, quand vous nommez quelqu'un comme vous le nommez, il y a un problème. Alors, c'est pourquoi la tradition dit que quand le père ou la mère dit il, elle s'appellera comme ça, il y a un moment d'inspiration. Au mieux, parce que c'est un son. Alors je reviens. Nous avons donc dans ce plan un certain nombre d'étapes. Premièrement, le projet. Deuxièmement, le récit de la réalisation. Troisièmement, le jugement qui implique une séparation. Tout jugement est une séparation. Et puis finalement, une destination de ce qui est advenu, arrivé, et un bilan. Et ce fut soir, ce fut matin, je. Voilà votre plan. Ce plan, vous le diagnostiquerez dans le récit des civils. Et vous verrez que, au fur et à mesure, ça se complexifie, si je veux, ça se nuance. Et alors, le temps qu'il reste, on va étudier deux points. La première, c'est qu'il n'y a que le premier jour, dans le récit du premier jour, où c'est bien ce qui a été projeté qui est advenu. Yéhi O, Vayi O. Bien que les maîtres ont enseigné que le O, la lumière de la réalité, n'est pas la même que celle du projet, c'est quand même de la lumière. C'est O. Et le texte est clair, il y a écrit O. Tandis que tous les autres jours viennent tous à l'expression. Je vous allez prendre le suivant. Je vais à la fin de la verset. Je crois que c'est à la fin du verset 7 aussi. À la fin du verset 7. C'est l'expression, vous êtes à la fin du verset 7, Zahir, l'expression Vahi Chen. Voilà, vous avez déjà compris ce que je veux dire en hébreu. Le texte ne dit plus que c'est ce que Dieu a projeté qu'il y a eu. C'est Vahi Chen. Et il fut ainsi. Et ça veut dire et il en fut ainsi. En français, des traductions, on a fini, ça a fini par prendre le sens contraire que c'était vraiment la même chose. Quand on dit il en fut ainsi, c'est ça qui a eu. Ben, c'est pas du tout ça qui est dans l'hébreu. Il n'en fut qu'ainsi. Donc, originellement en français, ainsi ça veut dire comme. Bien. Le mot le plus précis, je crois, en français, c'est un mot latin, quasi. Il y a eu à peu près. C'est clair? Réfléchissez bien là-dessus. C'est une chose nouvelle que vous êtes en train d'apprendre là, et qui vient d'un grand maître de la fin du Moyen-Âge, fabriqué à la massif, dans les détails en interfèche, expliquez cela. Et en se basant sur le Zohar, bien entendu, Vayeren, ça veut dire qu'il y a eu l'apparence de cela. Quelque chose qui ressemble. Vous savez que ça veut dire que quelque chose ressemble, c'est que c'est différent. Sinon, on ne dirait pas que ça ressemble. Alors, on se prend au piège. Quand on dit ça ressemble, ça veut dire que ça n'a rien à voir. Ça ressemble. Est-ce que c'est clair? Bon. Alors, donc, on apprend ici des choses importantes, mais surtout le principe pour nous, c'est qu'il y a un décalage dans la réalité avec ce qu'est le projet. Et il faut en tenir compte. Je veux dire, la Bible sait, elle commence par nous le dire. On ne viendra pas le projet de ça. Tu nous parles d'un monde parfait, mais maintenant on est imparfait. Non, mais on dit tout à fait autre chose. Il dit le projet est un projet de perfection, on l'amasa. Mais on l'amasa, c'est la réalité de l'existence, comme on l'a dit tout à l'heure, qui est un chen, un comme. C'est clair? Voilà. Ce n'est pas la peine d'analyser plus, je crois que vous avez dit. Alors il y a ici une notion importante dont il faut en tenir compte, et je crois peut-être que nous atteignons là. Une définition du commencement de la clarté. Parce que s'il en est ainsi, c'est-à-dire chaque étape est handicapée par les déchets d'approximation de l'étape précédente. Et le commencement de la clarté, c'est d'acquiescer, d'entrer dans un monde où il y a un passé démoniaque. Quelque chose qui pèse et qui vient d'avant. Est-ce que c'est clair?
Pourquoi c'est la piété?
Pardon?
Pourquoi c'est la piété?
Pourquoi c'est la piété? Parce qu'il faut acquiescer à ça. L'attitude de la révolte, ça consiste à dire tu m'as mis dans un monde tordu, alors je suis tordu. La piété, ça consiste à dire ben voilà l'état du monde, je vais être en charge. Et vous avez compris. J'ai essayé de décrire ça un peu en psychologie. Il y a un temps de la crise de l'adolescence où tous les adolescents se préparaient à dire je vais se répondre. Mais c'est vous, ça. Vous avez sûrement rencontré ça. Hein, dans notre vie intérieure. Alors c'est le héros romantique, c'est l'âge romantique. On est persuadé qu'on va réussir, ils sont tous échoués, mais avec moi vous allez voir. Et c'est clair. Et puis très rapidement on renonce. On renonce. Alors c'est grave, parce que quand on renonce vraiment, alors c'est pas. J'essaye de trouver les mots pour expliquer ce que je veux dire. C'est tout ou rien, alors c'est rien. Je comprends que. Pourquoi c'est comme un jeu, cet fléchissement de l'effort de l'héroïsme, qui est à un certain âge sincère. Et alors, comment ça peut se diagnostiquer? Vous avez entendu une grande œuvre, Rousseau, on dit raconte comment l'enfant entre dans la société, c'est la société qui a tout le temps. Lui, il était un saint. Et alors, comment ça se diagnostique? Ah, si ça avait commencé avec moi. Vous voyez, mais voilà, ça n'a pas commencé avec moi, je ne suis pas responsable. Alors, vous avez compris le mécanisme. C'est pourquoi je dis que c'est le commencement de la piété, un acquiescement à l'état des choses. Accepter les parents qu'on a eu, par exemple. Vous voyez pourquoi ça va être très important dans les différents groupes. Ils font un grand effort, souvent. Et la Torah nous raconte ces histoires. Et c'est pourquoi vous avez Mishnah qui dit, celui qui se demande un certain nombre de questions, mais en particulier qu'est-ce qu'il y a eu avant. Vous connaissez ce Mishnah. Et la Mishnah dit, il vaut mieux avoir. Bien. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire? Bon. Ça, je tenais à le signaler parce qu'il y a énormément de faux problèmes, d'objections à la Bible qui viennent de ce qu'on n'a pas lu vraiment ce que la Bible a dit. Vous voyez, c'est cette espèce de cliché que Dieu avait créé un monde parfait et dès qu'on jette les yeux sur le monde, enfin, dès qu'on perçoit le monde, on sait très bien que c'est pas comme ça. Et alors, la tentative magique d'explication du type chrétien, un péché originel qui a été traqué. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu quelque chose de commencement que la Torah va nous raconter qui est important à apprendre. Mais j'essaie de vous montrer le caractère absurde de la manière dont c'est véhiculé. Imaginez l'état de chaos du monde. Encore une fois, lisez le monde. Et alors, à cause de quoi? À cause de ce que notre premier ancêtre a mangé une pomme. Ah, c'est vraiment quoi? Je parle fou. C'est clair. Et il y a des gens qui suivent. Ok, curieusement. Okay. Ils pourraient manger ça. Tous les recherches, on mange une pomme avec du miel. Alors qu'il vaut mieux avouer qu'on ne comprend pas. Et se mettre à étudier pour savoir si on peut comprendre un peu. Est-ce que c'est clair ce qu'il dit? Moi, je suis toujours admiratif, en particulier dans les chrétiens, qui disent pieusement, avec une conviction sincère, c'est parce qu'il a croqué la pomme que ça arrive comme ça. Quelle rapport? Les conflits.
Mais c'est vrai qu'il y a une régression depuis
C'est vrai qu'il s'est passé quelque chose. Et il y a des conséquences. Mais tu ne le sais pas. Bref, il faut prendre acte, faire reconnaître humblement ton enfant. Et encore, il y a beaucoup de choses pour comprendre. D'ailleurs, Ramban, le même Ramban, tout le monde comprend ça. C'est le même Ramban. Il n'en comprend pas pourquoi c'est écrit. Alors, il dit, c'est pour qu'on en reçoive le message moral qu'on peut comprendre. Maintenant, tu veux comprendre, étudie. Ça, ça s'appelle le Ramban. C'est clair ? Je veux dire comment le Ramban t'exprime. Mais ça, on ne comprend pas. C'est un secret profond et ceux qui le savent dans le terre. Vous avez compris ce qu'il y a derrière ? Si tu as un secret, tu n'as pas le droit de dire que tu as un secret. Et d'ailleurs, comment ceux qui le savent si on doit le taire ? Vous avez compris, il y a des choses cachées là-dedans. Il n'y a pas de mal. Est-ce que c'est clair ? C'est comme si je vous disais, vous voulez voir qu'il n'y a rien là ? Et bien voilà, je mets quelque chose et j'enlève. Vous avez vu qu'il n'y a rien ? Mais c'est ça qui est important. Est-ce que c'est clair ? C'est-à-dire, je te dis, il y a quelque chose à comprendre. Ne quitte pas l'étude tant que tu n'as pas compris. Et si tu as compris, c'est toi. Et comment tu vas comprendre ? Eh bien, tu demandes à quelqu'un qui a demandé à quelqu'un qui répond de comme ça. Et aussi, moi, je suis. Et ceux qui le savent doivent venir à voix basse. La chance, à la suite. Comme ça, ça va au même. C'est-à-dire, tu dois le dire en langage de mystère. Ceux qui le savent doivent le dire. Mais vous avez bien la règle. Quand on a un secret, on n'a pas le droit de dire qu'on a un secret. On a déjà dévoilé en disant qu'on a un secret. Alors qu'est-ce que les rabbins disent ? Tu sais, tout ça c'est secret. Ça veut dire, ne quitte pas l'étude dans ta compte. Bien. Et donc, attendez, rappelez-moi de plus qu'on parlait parce que Rambam nous a demandé à faire un autre.
La pomme.
Hein ? La pomme. Oui. Monsieur, je vais vous raconter la chose. Et ne croyez pas que ce n'est pas écrit, il ne faut pas étudier pour comprendre ce que ça veut dire. Mais voilà, dans ce récit, Dieu crée tout de façon merveilleuse. On ne comprend pas, mais c'est merveilleux. Okay? Cohérent. Arrivé à la dernière création, sans doute la plus précieuse, la création de la femme, alors ça devient une histoire. Okay? Vous voyez tout de suite la scène. Anesthésie. Opération chirurgicale et d'une côtelette. Voilà, et on lit ça, pieusement, profondément. Okay? Sans se rendre compte de quoi il s'agit. Alors, c'est clair ? Alors, premièrement, il faut avouer qu'on ne comprend pas. Et ensuite, étudier pour arriver à comprendre de quoi il s'agit. Bon, mais rassurez-vous, c'est ça que le texte dit, apparemment, que la femme a été créée par le corps de l'homme. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Vous comprenez, là apparaît une règle que je crois que vous comprenez. Pour étudier, il ne faut pas être capable de se donner. Il n'y a rien qui va. Il faut s'étonner. Mais s'étonner profondément. Et se dégager des habitudes de pensée qu'on dit sans penser de Dieu. L'inertie de la pensée, des clichés, des
préjugés.
Ici, de cet ordre. Et je crois que la seule règle, c'est ce que nous avons appris en arrivant en Israël, c'est que ce texte doit être compris en hébreu. Et toutes ces études que nous avons en français, on peut le faire en tchécoslovaque, c'est des échafaudages. Et à partir du moment où la maison est construite, on enlève les échafaudages. C'est le et vous voyez la difficulté que nous avons d'étudier en français, parce que le français, d'abord, c'est pas l'hébreu, vous ne pas que je dis une certitude, le français est une langue gréco-latine qui véhicule des notions chrétiennes. Et imaginez, il y a trois conflits déjà au niveau de la langue. Les Grecs, les Romains, les chrétiens, la Judée et l'autre. Et on parle en français de contenu hébraïque. Vous voyez la difficulté ? C'est un mécanisme de ça. Je vais vous donner un l'écriture hébraïque, ça va de droite à gauche. Okay? Mais l'écriture française, ça va de gauche à droite. Laquelle des deux est à l'envers ? Laquelle des deux est à l'envers ? Aucune, chacune à son endroit. Okay? Ce qui sera à l'envers, c'est un hébreu qui écrira à l'envers, en français. Vous avez compris, il faut se mettre à l'envers. Eh bien, ça ne vaut pas seulement dans le sens de l'écriture, rotation de la terre ou pas rotation. Ça vaut dans l'ordre des notions. Voilà un exemple d'un grave conflit que nous avons avec le christianisme. Le christianisme a recueilli, emprunté des notions hébraïques d'origine et les a inversées et ça fait une idolâtrie. Par exemple, la notion de le Fils de Dieu, c'est une notion authentiquement de la Torah. Béni de ton Israël. Vous l'êtes tous. Tu es mon Fils. C'est Dieu qui parle comme ça. En parlant d'Israël. Qu'est-ce qu'a fait le christianisme? L'inverse. dans la fête Dieu le Fils, s'inscrit l'idée. Vous avez compris? Tout a changé, ou bien, un autre exemple. Nous avons le roi, l'esprit de sainteté. Qu'est-ce qu'on fait les chrétiens avec? Le Saint-Esprit. Alors, qui lui fait des livres? Chez eux, il fait des enfants. Rien à voir. Alors, donc, il va falloir cet effort de se hébraïser. Donc, voilà la première remarque que je voulais ajouter aujourd'hui, quand je me rends la prochaine fois. Et je la résume, cette première remarque, c'est que il y a un plan commun qui nous est donné en préface. Projet, réalisation, jugement, séparation, climat. Et puis, si c'est suffisamment bon, on passe à l'étape suivante. La deuxième remarque, que nous commencerons par étudier la prochaine fois, c'est qu'il y a écrit à la fin de chaque jour. Et ce fut soir, ce fut matin, jour 1, jour 2, il n'y a pas écrit encore, ce fut soir, ce fut matin, jour 7e. Réfléchissez à ça, et on va, qu'est-ce qu'on va prendre? Nous sommes arrivés à la fin du troisième verset du deuxième chapitre. Okay? Alors peut-être, nous étudierons ça la prochaine fois, étudiez bien les trois premiers versets du deuxième chapitre.
Donc, il y a une distorsion entre le projet et la manifestation. Pourquoi il y a une distorsion entre le projet et la manifestation?
Le projet de vérité, le monde absolu, la réalisation de la réalité, 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 la réalité